Bien le bonjour à tous. On est très heureux d'être de retour en ondes après quelques jours, une dizaine de jours où on était donc hors d'onde pour des raisons techniques, des raisons de santé à l'occasion. C'est un amalgame de petites choses qui ont fait que on a pu diffuser le matin, mais on est heureux donc d'être de retour aujourd'hui pour continuer nos bénédictions matinales. Donc, merci pour les prières, merci pour les petites pensées qui ont été témoignées à droite et à gauche, les petits mots que vous m'avez envoyés pour me saluer. Alors, on est très content d'être de retour tous ensemble, je l'espère. Donc, aujourd'hui, on va continuer notre étude dans Hébreux au chapitre 11. Un groupe nominal du verset 33. C'est dans cette partie d'Hébreux 11 où on ne mentionne plus les noms des personnages, mais de façon tout à fait arbitraire, donc tout à fait délibérée, à ces groupes nominaux, à ces expressions qu'on donne par rapport à certains serviteurs. On décide, ou je décide d'aborder un personnage biblique. Et aujourd'hui, c'est le fils du roi David, donc le roi Salomon, dans un groupe nominal qu'on va expliquer tout à l'heure. Donc on aura deux passages dans Hébreux au chapitre 11, toujours le verset 33. On va lire quand même du verset 33 au verset, du verset 32 au verset 34. Puis on lira dans Premier Roi au chapitre 3, Premier Roi chapitre 3, du verset 3 au verset 15. Et à travers les prochains jours, donc aujourd'hui, demain, possiblement début de semaine prochaine, on va étudier donc des versets 9 à 14 et faire sortir les grandes leçons de ce que la foi a amené dans la vie de Salomon, particulièrement au niveau de la sagesse, puisque c'est quelque chose qui le démarquait de tous les autres. Alors voilà un peu les explications pour ce matin. Donc on va prier. Et après quoi, nous débutons tout de suite notre lecture. Alors, merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, pour cette occasion qu'on a, après quelques jours d'absence, d'être de retour pour étudier ta parole, partager ta sagesse et ta pensée. Nous te demandons Seigneur d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir notre compréhension, afin que nous puissions vraiment recevoir tout ce que tu as préparé pour nous. Étends ta main, touche-nous, bénis-nous. Et en toute chose, que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne à toi et strictement qu'à toi, nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Et tout le monde peut dire Amen. Alors, je lis tout d'abord Hébreux au chapitre 11, des versets 32 à 34. La Bible nous dit, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. La section qu'on étudie ce matin, c'est « exercèrent la justice ». Ces hommes qui, par la foi, exercèrent la justice. Et quand on parle de quelqu'un qui a exercé la justice dans l'histoire d'Israël, on va bien entendu parler des juges, ces hommes et ces femmes que Dieu élevait dans un temps donné entre l'époque de la conquête donc de Josué et puis l'arrivée du premier roi Saül, puis du roi David. Entre ces deux époques, il y a une époque où il n'y a pas un leader tout à fait particulier, élu, recevant son règne comme un roi d'un père et le transmettant à un fils. Ce n'est pas dans une lignée rectiligne, et c'est redondant ce que je dis, mais vous me comprenez. Là, ce sont des hommes qui vont se lever. par la grâce de Dieu, et des femmes aussi, et qui pendant un certain temps vont exercer donc un leadership sur Israël pour les libérer de la main de royaumes ennemis, voire pour aussi trancher des débats, des tensions au sein de la société d'Israël. Par la suite, on arrive à un autre type de gouvernance. Donc, on a eu les patriarches avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué, qui en a été le dernier, qui ont dirigé Israël, puis de façon sporadique et ponctuelle, les différents rois qu'on trouve, les différents juges qu'on trouve dans le livre du même nom. Puis, par la suite, on tombe donc dans un régime monarchique demandé par Israël parce qu'ils voulaient avoir les mêmes types de gouvernance que les royaumes autour d'eux. Donc, ils vont établir Saül comme roi. Saül va être démis de ses fonctions, rejeté par l'Éternel. L'Éternel va établir David comme roi, parce que c'était un homme selon son cœur. Malgré tout, David va pécher avec Bathsheba, cette femme qu'il voit alors qu'au lieu d'être à la guerre, il se trouve sur son toit et regarde une femme un peu plus loin prendre son bain, va faire tuer son mari au front, et puis va marier Bathsheba pour couvrir l'iniquité de son adultère. De cette union, qui est punie par Dieu au départ, il va donc y avoir un fils qui va mourir, le premier-né qui va mourir, puis il y aura Salomon qui va en être. Et ce qui est intéressant avec Salomon, qui est notre personnage aujourd'hui, deux choses. Un, c'est qu'après la sanction qui a été dure, qui a été aussi juste, après la sanction, il y a restauration. Donc David, après avoir, on va dire, purgé sa peine devant l'Éternel, en ayant ce premier fils qui va mourir à la naissance, on se rend compte que Dieu va pourvoir un autre fils, qui est Salomon. Et ce Salomon va être mémorable dans les annales d'Israël. Ça veut donc dire que Dieu, oui, sanctionne, mais on ne peut pas parler d'une doctrine de châtiment, d'une doctrine de correction par rapport à Dieu, si on ne parle pas pour autant d'une doctrine aussi de restauration. La discipline que Dieu exerce sur ses enfants, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour réformer et pour occasionner une possibilité de reprise, de restauration, une possibilité de croissance. Et cette croissance va s'expérimenter particulièrement avec Salomon. Et une des caractéristiques toutes propres à Salomon, c'est que Salomon va être déclaré l'homme le plus sage de l'histoire du monde. Dieu va lui accorder une sagesse toute particulière qui va lui permettre de diriger Israël, de conduire le peuple et d'amener Israël même dans des sommets que David lui-même n'avait pas connus. Durant toute la période du règne de Salomon, non seulement le royaume va s'enrichir, de surcroît à cela, Salomon va exceller dans les jugements, dans les verdicts, dans les causes qu'il va prendre en délibéré et sur lesquelles il va statuer. Et tout le monde va reconnaître l'immense sagesse de ce personnage. Alors on lit pour nous ce matin d'où vient cette sagesse ou à quel moment intervient la sagesse que Salomon va recevoir de la part du Seigneur. Alors je vous invite à ouvrir avec moi dans 1er Roi au chapitre 3. 1er Roi chapitre 3 et je vais lire pour vous du verset 3 jusqu'au verset 15. 1er Roi 3 verset 3 nous dit « Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'ils marchaient en ta présence dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla, et voici le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des sacrifices, des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors que Dieu bénisse sa parole. On est bien entendu, encore et toujours, dans une série d'études sur la foi et sur l'impact de la foi dans la vie de différents serviteurs et de différentes servantes de Dieu. Et ici, on voit Salomon qui accède au trône de David, qui succède à son père, et dans un rêve, il demande à Dieu de la sagesse. Ce qui est intéressant au tout début, et sans que ce soit les points qu'on va voir aujourd'hui, Salomon va reconnaître sa faiblesse, sa petitesse et son incapacité à juger le peuple, à conduire le peuple adéquatement. Et va donc s'enquérir auprès de Dieu pour de la sagesse, pour de l'intelligence, afin de bien mener à terme son mandat. Et ça, ça doit être une inspiration pour nous. Salomon a grandi dans la maison de David. Salomon a grandi comme fils du roi. Il a marché dans les pas de son père. Il a été instruit par celui-ci, qui va lui montrer aussi comment bâtir l'éventuel temple à l'Éternel. Donc Salomon reçoit de son père de la connaissance, des expériences, un partage. Et malgré tout, Salomon ne se prend pas pour mieux qu'il n'est, ne se regarde pas comme quelqu'un qui a la science infuse, mais admet sa petitesse, son ignorance et son incapacité à conduire et à diriger le peuple de Dieu. Un des grands malheurs de la chrétienté, un des grands malheurs qui afflige, ou un des grands maux, des grandes tares, qui afflige régulièrement le chrétien, c'est de se croire à point. De penser qu'il a, qu'elle a, la connaissance, la sagesse, l'intelligence, l'expérience pour mener à bien une œuvre pour Dieu. Et assurément, l'expérience avec les années peut aider. Assurément, les habiletés intrinsèques, les habiletés innées peuvent aider. Mais tant l'expérience que les habiletés innées peuvent disparaître totalement de notre pensée. Sur un claquement de doigts, Dieu peut faire disparaître toutes nos connaissances, toute notre sagesse, toutes nos habiletés. Et lorsqu'on est dépourvu de tout cela, Bien, à ce moment-là, comment pouvons-nous mener à bien l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés? En fait, il faut comprendre une chose. Il nous faut nous rappeler d'une chose. Que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes capables de faire, nous le devons à la grâce et à l'élection de Dieu. Pourquoi il établit un sur un terrain et un autre sur un autre terrain? C'est Dieu qui décide dans son infinie sagesse et dans son omniscience. Pourquoi Dieu décide-t-il de mettre certaines personnes au-dessus d'un groupe de grande envergure, volumineux? Et pourquoi demande-t-il à quelqu'un d'autre de diriger une œuvre qui, au niveau numérique, semble plus petite? Ce n'est pas que l'un mérite plus que l'autre, c'est que Dieu a établi que pour l'un, il était préférable de faire ceci que par rapport à l'autre. Salomon le comprend et se tourne vers Dieu en disant « Je suis trop petit pour faire l'œuvre à laquelle tu m'appelles. J'ai besoin de toi. » La foi devrait nous permettre de saisir que sans Dieu, nous sommes incapables de quoi que ce soit. Une foi réelle devrait nous amener à aller chercher auprès de Dieu ce dont nous avons besoin pour remplir le mandat qu'initialement Dieu a lui-même délibérément lancé sur notre vie. Ne pas se satisfaire de soi-même, ne pas se croire méritant d'une chose, ne pas se croire suffisamment équipé pour une chose, mais revenir toujours et sans cesse au fait que nous avons besoin de Dieu encore et toujours et éternellement. Alors Salomon va avoir ce cœur-là en cherchant auprès de Dieu sagesse. Et dans les échanges qu'il va avoir avec Dieu, dans ce rêve bien entendu, à partir du verset 9 au verset 14, on voit différentes choses que Salomon demande et différentes choses que Dieu octroie. Ce matin, on va étudier principalement le verset 9 avec quatre sections particulières. Alors, je reprends pour vous le verset 9. C'est Salomon qui, dans son rêve, parle à l'Éternel. Et il lui dit, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » En fait, c'est la première phrase qui m'intéresse. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Ça, cette phrase, cette demande, cette requête, elle est exposée à Dieu juste après avoir reconnu comme quoi son serviteur, donc Salomon lui-même, est trop petit pour faire le travail. Et ce qu'il demande à Dieu, c'est donc la sagesse pour bien faire la chose. Accorde donc à ton serviteur. Accorde. Le terme accorder, c'est le terme Nathan. N-A-T-A-N, pour ceux qui prennent des notes, bien entendu en hébreu, puisqu'on est dans l'Ancien Testament. Accorder. Nathan. Accorder veut dire se voir octroyer, se voir confier une chose, se voir hériter ou fait héritier d'une chose, se voir assigner une chose. Octroyer, confier, hériter, assigner. Mais j'aime qu'on rajoute « se voir » avant. Se voir octroyer, se voir confier, se voir hériter une chose ou se voir devenir l'héritier d'une chose, se voir assigner. Et quand on parle de se voir ici, ce n'est pas en train de se regarder le nombril. Non. Se voir signifie que le fait de recevoir ou d'être octroyé d'une chose, le fait qu'on nous confie une chose, le fait qu'on fasse de nous héritier d'une chose, le fait qu'on nous assigne à une tâche, ne dépend pas de nous. Accorde-nous, c'est comme si on demandait à Dieu, daigne me donner telle chose, daigne accepter de me donner une chose. Salomon comprend que la sagesse dont il a besoin ne peut pas venir de lui-même, mais ne peut venir que de Dieu. Et il recherche cette sagesse, non seulement avec l'humilité qu'on a vue il y a quelques instants, qu'on a mentionné un peu plus tôt, mais aussi en allant vers la source seule et unique de laquelle Salomon sait que la sagesse absolue, que l'intelligence, que la connaissance peut venir. Donc, de Dieu uniquement. Tout ce que tu as, la Bible nous dit, y a-t-il quelque chose que tu as que tu n'as pas reçu? Trop souvent, on se pète les bretelles, on a la tête qui enfle, même si au départ, on sait que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien. Mais il semblerait qu'à un moment donné, sur le parcours de notre foi, on vient à oublier que tout ce que nous sommes et que tout ce que nous avons ne dépend pas de nous, mais dépend de Dieu. Et encore là, ne dépend pas de nous. Assurément, si tu vis dans le péché, assurément, si tu fais ce qui est contraire à Dieu, il va se passer la même chose que Dieu a fait avec Saül. Saül a été placé comme roi, Dieu a octroyé une autorité à Saül, et Dieu a attesté ou a établi cette autorité. Mais quand Saül s'est détourné des voies de Dieu, Dieu s'est détourné de lui aussi. Alors l'onction que tu as, la grâce que tu as, le pouvoir que tu as, l'autorité que tu as, les talents que tu as, la connaissance que tu as, oui, viennent de Dieu, mais Dieu peut aussi les retirer si tu ne marches pas dans sa voie, dans ses voies. Alors Dieu va accorder à Salomon. Ça veut dire que c'est lui qui prend la décision de remettre à Salomon sagesse, intelligence et connaissance. Se voir octroyer, se voir confier, se voir devenir l'héritier d'une chose, mais j'aime aussi le terme « se voir assigner une chose ». Lorsqu'on parle d'assigner, on parle d'un travail, on parle d'une tâche, on parle d'une position. Donc Dieu, dans cet échiquier universel qu'il a pour l'ensemble de l'humanité, il établit chacun d'entre nous dans un rôle particulier pour lequel nous avons besoin de sagesse. Aucun d'entre nous ne naît avec la sagesse infuse pour bien faire les choses. Cette sagesse, nous devons aller nous en enquérir auprès de Dieu. Cette sagesse, nous devons aller la chercher auprès de Dieu. C'est ce que Salomon va faire. Et c'est ce que Dieu va accorder. Alors, comprends comme premier point ce matin, deuxième point, puisqu'on a parlé de l'humilité, comprends que cette sagesse ne peut venir que de Dieu et ne vient pas de toi. Deuxième point, il dit « accorde à ton serviteur ». Le terme serviteur, c'est le terme « ébed », E-B-E-D, « ébed », qui parle, oui, d'esclave, qui parle de serviteur, de servant, qui parle de sujet, donc sujet par rapport à un roi, donc la plèbe, le peuple, par rapport à un monarque, et qui parle aussi de celui qui est lié. J'aime commencer avec esclave et terminer avec celui qui est lié, celui qui est attaché, celui qui est enchaîné. Pourquoi? Parce que régulièrement, surtout dans notre pensée très contemporaine et démocrate, on vient à penser que nous ne sommes que des collaborateurs avec Dieu, que nous sommes des bras droits de Dieu, que nous sommes des collègues avec Dieu. Et assurément, oui, nous œuvrons dans l'œuvre de Dieu, nous œuvrons à ses côtés, mais n'oublions pas une chose, il reste, il demeure, et il sera pour toujours le patron de l'œuvre, le propriétaire de l'œuvre, le maître de l'œuvre. Il ne peut pas y avoir sur un même royaume deux rois. On ne voit pas deux rois diriger en même temps un seul et même royaume. Il ne peut y en avoir qu'un. Et comme Dieu est le roi des rois, le roi de tous les rois, et qu'il règne éternellement, donc dans le royaume, il ne peut pas y avoir un deuxième roi qui porterait ton prénom. Si Dieu est roi, tu es donc son sujet, son serviteur. Et bien qu'il soit un honneur de travailler pour Dieu, et bien que ce soit lui qui nous accorde la sagesse, comprenons une chose, nous sommes ses serviteurs. Le grand malheur qui arrive aussi souvent dans notre société, c'est que lorsque papa a été important, comme dans le cas ici de Salomon, David, son père, a été et est encore un des icônes de la société juive, il était et il est encore le roi le plus populaire de toute l'histoire d'Israël. Quand on parle d'un leader charismatique, d'un leader, bien qu'il ait été contesté à certaines occasions, mais dans l'histoire d'Israël, un des plus grands leaders est David. Il compte dans les leaders aussi grands que Abraham et que Moïse. Quand on parle du plus grand roi d'Israël, on se réfère nécessairement à David. Et régulièrement, parce qu'on a côtoyé quelqu'un d'aussi grand, on peut arriver avec une certaine tête un peu volumineuse. Salomon pourrait se targuer, moi je fais partie de la famille de David. Oh, je suis le fils de David. Je suis l'héritier au trône. Et si dans la technique ou dans la technicalité, ce n'est pas faux, lorsque Salomon se présente devant Dieu, il se présente comme un ébed, qui veut dire esclave et qui veut dire enchaîné. Et dans cette notion, il y a trois éléments. Esclave, donc encore une fois un appel à l'humilité. Le grand roi Salomon, le fils du très grand roi David, qui se présente devant Dieu comme un esclave. Deuxièmement, un esclave ou un serviteur, un servant, un sujet, donc quelqu'un qui travaille pour le roi. Lorsque Salomon demande la sagesse, il ne la demande pas pour sa gloire, il ne la demande pas pour son prestige personnel. Il demande la sagesse et l'intelligence pour faire le travail que Dieu lui a donné comme mandat. Il demande la sagesse pour bien faire son travail. Donc, le roi Salomon est un roi, mais à l'instar de Jésus, un roi qui sert, un roi qui travaille, qui ne travaille pas pour sa propre cause, mais qui travaille pour l'avancement du royaume de Dieu. Jésus va donner ce parfait exemple le jour de son arrestation ou quelques heures avant. Il va se dévêtir de ses vêtements de rabbi, de maître. Il va ceindre sa taille d'un chiffon et il va aller faire la tâche la plus vile d'une maisonnée, la plus vile dans la société judaïque de l'époque ou juive de l'époque. Et il va aller laver les pieds de ses propres disciples, de ses propres serviteurs. Et ici, c'est encore une fois comme à l'instar de David et comme à l'instar de Salomon qui se présente devant Dieu comme un roi serviteur. Ça devrait être une exhortation pour toute personne qui aspire à un rôle de leadership. La foi devrait nous amener à l'humilité, la foi devrait nous amener à occuper, oui, parfois, un rôle de leadership, mais toujours un leadership qui sert, un leadership de serviteur. Et le troisième point par rapport à ce terme serviteur qui est enchaîné. Un esclave, on le voit très souvent dans les films et tout ça, avec ses chaînes aux pieds, ses chaînes aux cou, ses chaînes aux mains. Pourquoi? Parce que c'était de la façon dont on déplaçait les esclaves. Parfois, ils faisaient même le travail avec les chaînes. Ici, enchaîné, j'aime le voir avec le fait d'être enchaîné à un mandat, enchaîné à un travail, enchaîné à une mission, à une œuvre. Et comprenons une chose, si tous les maîtres de cette terre sont mauvais, si tous les propriétaires de serviteurs, de servantes ou d'esclaves, ici-bas sur terre, dans toute l'histoire de l'humanité, ont tous eu des défauts, voire certains étaient d'abjects personnages, plusieurs même étaient d'abjects personnages, le maître pour lequel nous travaillons, c'est le genre de maître qui nous dit « Florent, mon fils, ton prénom, ma fille, mon fils, je te donne l'occasion, tu restes avec moi ou tu quittes ?» Tu restes avec moi ou tu pars faire tes propres choses. On se rappelle cet enseignement sur le jubilé qu'on a vu à travers cette année, où une fois à tous les 50 ans, une fois à tous les 7 ans, on devait accorder la rémission des dettes et on devait libérer les esclaves. Mais les esclaves ou les juifs qui s'étaient placés en servitude par rapport à un de leurs frères pouvaient, lorsque le jubilé arrivait, prendre la décision de rester enchaînés, de rester attachés, de rester au service d'un maître si celui-ci leur convenait et leur était bon. Nous avons le plus excellent des maîtres. Un maître qui nous aime tellement qu'il en est mort à la croix pour nous. Un maître qui n'a pas hésité à donner sa vie pour toi et pour moi. Un maître qui nous équipe, qui nous fortifie, qui nous restaure, qui nous nourrit, qui prend soin de nous, comme nul autre ne peut le faire. Et bien au-delà de ce que nous pouvons faire nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Question pour toi ce matin. Face à un tel maître, pourquoi voudrais-tu perdre ses chaînes? Pourquoi voudrais-tu te défaire de liens qui ont été tissés avec Christ? Je te pose la question pour toi aujourd'hui, puisque l'enseignement de ce matin nous parle d'être des serviteurs et être enchaînés à la mission et au maître de cette mission. Je te pose la question. Es-tu vraiment lié à Jésus? Es-tu vraiment enchaîné à Jésus? Est-ce vraiment à Jésus que ta vie est intimement attachée? Salomon se présentait devant Dieu avec humilité, en demandant à Dieu de lui accorder ce qui lui était nécessaire, et se présentait comme un esclave, qui était encore et toujours même en étant maintenant sur le trône d'Israël, était malgré tout attaché, lié à Dieu. Parfois, notre alliance avec Dieu, notre lien avec Dieu, notre enchaînement à Dieu dans le bon sens du terme, comme on l'a expliqué tout à l'heure, parfois cet enchaînement et ce lien est sporadique, ponctuel. Pour un instant, et c'est terminé. Voire pour quelques instants répartis sur une vie, voire sur une année. Un bon serviteur, un bon sujet, un bon ouvrier est attaché à son travail en tout temps, en tout lieu. Et comme je l'ai dit souvent dans le passé, il n'y a pas de plus beau et de plus merveilleux travail que de servir le Seigneur. Alors ce matin, un appel à nous tous, à l'humilité, un appel à nous tous à nous tourner vers Dieu pour ce qui est nécessaire quant au mandat et à l'appel qu'il nous donne, et un appel à chacun d'entre nous pour être des serviteurs qui sont et qui demeurent et qui demeureront attachés à leur maître, attachés à leur mandat, attaché à leur œuvre. Et on va continuer demain, toujours avec ce même verset. Alors Seigneur, je prie pour moi-même, mais je prie aussi pour ma sœur et mon frère, que l'exemple de Salomon, dans son humilité, au moins initiale, dans sa quête auprès de toi comme seule source d'intelligence et de sagesse, et dans son attachement littéral à toi, dans son enchaînement à toi, qu'il soit, Seigneur, un exemple pour nous. Amène-nous aujourd'hui, Seigneur, à réfléchir sur l'humilité que nous devons afficher et peut-être, Seigneur, le niveau de fierté, d'orgueil qui nous habite malheureusement trop souvent. Ramène-nous, Seigneur, à réfléchir au type de serviteur que nous sommes. Parfois, on arrive dans un poste de leadership et on croit que c'est les autres qui doivent nous servir. Tu étais le roi des rois qui s'est fait homme et tu as pris l'image, la position du plus vil des serviteurs parce que tu étais un roi serviteur. Que cela puisse nous habiter comme pensée, comme mode de vie. De surcroît à cela, Seigneur, que nous puissions demeurer attachés à toi. Non pas à ton service à l'occasion durant l'année, à l'occasion durant une vie, quand les circonstances s'y prêtent, quand le temps s'y prête, quand l'envie y est, mais que nous soyons plutôt des serviteurs qui s'attachent à toi viscéralement et sans aucune pause, travaillant sans relâche à l'œuvre du Seigneur. Alors bénis ma sœur ce matin, bénis mon frère, et permets-nous, Seigneur, d'être éclairés par ta parole. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce qui termine notre étude pour ce matin. On se retrouve demain, toujours avec ce verset 9. Je croyais pouvoir le compléter ce matin, mais on a débordé un peu. Donc, on se retrouve demain matin pour continuer notre série d'enseignements sur Salomon et sa quête de la sagesse, sa quête qu'il mène avec sa foi. Alors que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous et c'était encore un très très grand plaisir d'être de retour parmi vous. Alors à demain, au revoir tout le monde.